Atlantic Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
La stratégie du chaos, c'est ainsi que l'on pourrait qualifier les 100 premiers jours de Trump à la Maison-Blanche. Depuis son investiture le 20 janvier, le président américain a multiplié les déclarations fracassantes, les mesures choc, remise en cause du droit du sol, expulsion de migrants, retrait des États-Unis de l'OMS et de l'accord de Paris sur le climat, des coupures budgétaires dans la santé, l'éducation ou encore dans l'aide extérieure au développement. Sur la scène internationale, on a tous encore en mémoire cette humiliation du président Zelensky. Trump a également défendu son projet de transformer la bande de Gaza en Riviera du Moyen-Orient, sans oublier ses velléités expansionnistes au Canada et au Groenland. Il s'est mis à dos le monde entier en augmentant les droits de douane. Voilà quelques-unes des principales annonces et provocations de Donald Trump. C'est une journée spéciale que vous propose RFI à l'occasion justement des 100 premiers jours. Un cap, vous me direz, symbolique, mais c'est un cap important. 100 jours, c'est une période qui, en général, donne le ton d'un mandat présidentiel. Jusqu'à 9h, temps universel, vos questions et vos réactions pour dresser donc un premier bilan du retour de Trump dans le bureau ovale. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Vous nous suivez à la radio, mais vous nous regardez également sur la chaîne YouTube RFI. Soyez les bienvenus. À mes côtés pour dialoguer avec vous, Romuald de Ciora. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Vous êtes franco-américain, vous vivez aux États-Unis et vous publiez aux éditions Armand Collin l'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence. Et face à vous, Jérémy Guez, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC, vous publiez aux éditions VA. États-Unis, déclin improbable, rebond impossible. Avant de passer au standard, les auditeurs sont nombreux ce matin. Romuald de Ciora, vous qui vivez quasiment toute l'année aux États-Unis, comment vous qualifiez ces 100 premiers jours ?
Bah écoutez, ce sont 100 jours qui ont ébranlé le monde, si je puis dire. Durant la campagne électorale et surtout après l'élection de Trump, je passais mon temps à répéter avec cette probable prochaine administration et ensuite avec cette administration, d'ici 2 ans, les États-Unis ressembleront plus à la Hongrie de Viktor Orban qu'à l'Amérique d'Obama ou de Kennedy. Je dois admettre aujourd'hui que je me suis trompé, ça a pris 3 mois. L'Amérique aujourd'hui ressemble plus à une démocrature qu'à la démocratie qu'elle a pu être. Les universités sont attaquées de toutes parts, la plupart d'entre elles se couchent, les médias, le pouvoir juridique, le Congrès voit certaines de ses prérogatives reniées au profit de la Maison-Blanche, etc., etc. On y est.
Jérémy Guez, le Donald Trump de 2017 est très différent de celui de 2025 ?
En tous les cas, il est beaucoup mieux organisé. Il a un agenda, en tout cas, qui a été alimenté par un certain nombre de personnes autour de lui. Je pense que pour être peut-être à contre-courant par rapport à tout ce qui a pu être dit, il y a quand même un certain nombre d'hésitations dans son esprit. Le conflit en Ukraine, à mon avis, c'est beaucoup moins clair dans son esprit que ça l'est dans l'esprit de son...
On aura l'occasion d'en parler, bien évidemment.
Voilà. Et je pense que même, finalement, ses visées... aussi paradoxal que ça puisse paraître, à mon sens, sont plus de nature, comme on dit en très mauvais français, de branding, d'image de marque personnelle, que politique, comme ses prédécesseurs auraient pu l'avoir. Et je pense que, par exemple, les élections de mi-parcours qui ont lieu dans 18 mois, peut-être occupent un petit peu moins son esprit que par le passé.
Diriez-vous tous les deux, et je vous demande une réponse oui ou non, qu'en ce moment, Donald Trump, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il tient ses promesses ?
Il fait tout pour
les tenir. Il fait ce qu'il avait promis.
Il fait tout ce qu'il faut pour les tenir et en tout cas, il fait preuve d'une volonté politique remarquable qui devrait servir de leçon aux démocrates lorsqu'ils sont au pouvoir.
Vous êtes d'accord, Jérémy Guez ?
Avec un gros bémol sur l'inflation.
Ah, là aussi, on en parlera. La situation économique. 10h16 à Paris, 8h16 en temps universel. Vos questions, premier auditeur. Bonjour, Alceni.
Bonjour, messieurs. Bonjour à vos invités.
Merci d'être avec nous. On vous écoute.
Bien. Donald Trump a été élu par le peuple et pourtant il y a de nombreuses manifestations dans le pays. Alors, j'ai des questions.
Oui.
ce mouvement de contestation peut-il prendre de l'ampleur? Où en est la cote de popularité de Donald Trump?
Alors, c'est vrai que vu de l'extérieur, vu de l'étranger, on se dit « Ouh, il y a du monde dans les rues, à New York, à Miami, à Washington, des milliers de personnes qui descendent régulièrement dans les rues pour dénoncer la politique de Donald Trump. Romuald Sura, vous qui vivez sur place, il faut relativiser cette colère ou au contraire la prendre au sérieux?
Il faut relativiser grandement cette colère. Toutes ces manifestations sont bien sympathiques. J'ai moi-même participé à celle qui a eu lieu à New York, mais voyons les choses. À peu près 500 000 personnes ont manifesté début avril au moment de ces grandes manifestations dites de masse. 500 000 personnes pour un pays de 330 millions d'habitants, ce n'est pas beaucoup. Et surtout, si l'on compare avec le 17 janvier 2021 et la fameuse manifestation anti-Trump, celle-ci avait réuni 3 millions de personnes. Durant une semaine, Black Lives Matter a réuni 17 millions de personnes. Donc non, il n'y a pas une révolution anti-Trump. La population américaine ne se soulève pas. Les gens qui manifestent est essentiellement des démocrates et des convaincus.
Ouais. Jérémy Guez, la popularité de Trump, que disent les derniers sondages?
Elle se situe autour de 40 à 44% en fonction du sondage auquel on prête attention. Alors c'est historiquement bas, surtout comparé à celle de ses prédécesseurs. À mon sens, ça monte quand même vers à moitié plein pour Donald Trump que sa coalition est presque intacte. Les MAGA, ça mesure à peu près entre 25 et 36% de l'électorat américain. Donc on est au-delà de la base MAGA. Donc ce soutien à Donald Trump reste assez solide quand même.
Mais on sent quand même, quand on regarde par exemple un sondage du Washington Post, si ma mémoire est bonne, qui compris au sein de son propre électorat, les gens sont quand même mécontents.
Oui, mais écoutez, c'est un petit peu une tradition pour tout président après quelques mois. Et ne vous inquiétez pas trop, si je puis dire, pour
je
Donald Trump.
Je ne suis pas
Trump.
Inquiet, je m'inquiète de rien.
Tant mieux, sinon je vous aurais rassuré. N'oublions jamais que Donald Trump a été, durant son premier mandat, pendant 4 ans, le président le plus impopulaire de l'histoire des États-Unis. Et regardez
il a été
où
réélu.
Il en est
il a été
aujourd'hui.
Réélu au la main.
Exactement. Donc ne nous inquiétons pas trop pour lui. Les prochaines élections, comme vous l'avez dit, auront lieu dans 18 mois. Donc il a encore le temps, en tout cas, d'espérer pouvoir relever la barre. Donc effectivement, une impopularité importante, mais il n'y a pas encore danger en la demeure.
Je me fais le porte-parole d'Albert. Il est à Cotonou, au Bénin. Les démocrates semblent bien silencieux face à la politique de Trump. Pourquoi l'opposition apparaît-elle impuissante? Elle est impuissante. Et les démocrates sont-ils impuissants, Jérémy Guez?
Oui, et il y a deux raisons particulières. La première, c'est qu'elle est complètement tétanisée. Que finalement, la victoire de Joe Biden en 2020 était un petit peu une parenthèse. Celle de 2016 est encore cuisante, celle de 2024, n'en parlons pas. Et le parti est aussi extrêmement divisé, à mes yeux. Vous avez une aile centriste capable de mobiliser dans un monde alternatif dans lequel le pays n'a pas changé, qui est incarné peut-être par Josh Shapiro, le gouverneur de la Pennsylvanie, ou Cory Booker, le sénateur du New Jersey, ou Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie. Et puis, côté gauche, il y a Bernie Sanders et Olivia Ocasio-Cortez qui s'imaginent comme un petit peu l'aile gauche capable même de mobiliser.
Eux, pour les deux, enfin, pour vous les citer, hein, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, ils sont sur la scène, on les voit, ils sont dans les médias. Il n'y a que finalement aujourd'hui pour incarner le Parti démocrate, Romuald Sura.
Mais Jérémy a tout à fait raison et j'ajouterais, il faut quand même avoir à l'esprit que le Parti démocrate n'a jamais été vraiment un parti au sens où on l'entend en France, un parti avec une colonne politique vertébrale, un chef, etc. C'est plutôt un ensemble, une machine qui se réveille au moment des élections et où se trouvent des courants très très différents. Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez pourraient être facilement comparés, on va dire, à Mélenchon, si je puis dire, tandis que Joe Biden ou Kamala Harris, c'est François Bayrou. Donc il y a vraiment des divergences, voire idéologiques, au sein du Parti démocrate. Oui, aujourd'hui, c'est Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez que l'on entend. On regrette de ne pas entendre plus une grande voix comme celle de Barack Obama.
Ouais. Bon, mais en tout cas, il va falloir...
Il est occupé à vendre des livres chez Oprah Winfrey, vous savez.
Je sens une pointe d'ironie dans vos propos, Romuald Sura. En tout cas, les démocrates vont devoir trouver une personnalité, quelqu'un qui incarne le parti d'ici à cette échéance électorale que vous avez déjà citée 3, 4, 5, 6 fois depuis le début de cette émission, à savoir les élections de mi-mandat en novembre 2026. On repasse au standard. Autre question, Richard, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous vos correspondants à travers le monde.
Merci de vos encouragements. Vous êtes au Cameroun. Vos questions?
Bien, Donald Trump a opéré d'importants coupes budgétaires dans les domaines de la santé, de l'éducation, dans les services publics en général.
Oui.
Mais il tombe d'or et déjà les conséquences sur les populations vulnérables aux États-Unis.
Alors, c'est vrai que les coupes budgétaires, elles ont été et elles le sont tous azimuts. Quel constat, quel premier bilan peut-on dresser, Romuald Sciorra, sur les répercussions, les conséquences au sein des populations les plus vulnérables, nous demande Richard.
Écoutez, dramatique, et c'est une excellente question. Il y a aux États-Unis à peu près 37 millions de personnes qui n'ont pas d'assurance santé. Et quand j'entends pas d'assurance santé, qui n'ont pas vu un docteur depuis des années, un dentiste parfois depuis leur enfance. On parle d'une véritable paupérisation comme on n'en connaît nulle part ailleurs dans le monde développé. Aujourd'hui, c'est près de 20 millions d'autres personnes qui risquent de voir, ou qui ont déjà en partie vu leur assurance santé sauter. Donc voilà un exemple parfait, et on pourrait continuer ainsi sur d'autres secteurs, l'éducation, la recherche. Ouais.
Et toutes ces coupes, Jérémy Guez, elles sont décidées finalement par Elon Musk. C'est lui qui dirige cette fameuse commission pour l'efficacité gouvernementale. Et c'est lui qui décide de là où il faut faire des économies.
Oui, sachant que de toute façon, son rôle est probablement appelé à être réduit, probablement parce que l'ego des deux hommes ne peuvent pas coexister et que c'était un mariage de connivence et de raison qui risque de se... résulter en un divorce de raison. Mais effectivement, mais je pense que ce qui est important aussi de souligner, c'est que finalement, Donald Trump incarne aussi quelque chose d'idéologique, quelque chose de politique, et les réalités économiques sont claires et nettes, mais il y a aussi des réalités politiques derrière ce talent de ce président de continuer à mobiliser sa base. Et encore une fois, les effets bien évidemment, le risque est bien là et peuvent être absolument dramatiques, mais est-ce que son prisme de lecture de la réalité politique est exclusivement lié aux faits? Probablement pas. C'est aussi sur les messages politiques et cette idée de mission accomplie qu'il pourrait promouvoir à l'occasion des élections de mi-parcours et au-delà.
Sur WhatsApp,
si je puis rebondir, allez-y, a tout à fait raison. N'oublions pas qu'une très très grande partie des Américains, je dirais près 40%, sont en faveur de ces coupes et sont en défaveur du trop d'État. Peu importe si je meurs à 50 ans d'un cancer que j'ai jamais pu soigner, je ne suis pas un démocrate.
Donc je n'ai pas les moyens de me soigner, mais je
mais
suis
je
d'accord que...
rien de l'État.
Désengage.
Ça serait
d'accord.
Anti-américain d'attendre quelque chose de l'État. Donc, tout ce qui peut nous sembler irrationnel et un peu fou vu d'Europe est approuvé par une grande partie de la population.
Sur WhatsApp, Albert nous dit « Les coupes budgétaires dans les secteurs de la santé et de l'éducation aggravent-elles les inégalités aux États-Unis ?» La réponse est oui.
Bien évidemment, regardez les écoles, vous savez comment ça fonctionne. Enfin, on n'a pas le temps de développer ici, mais c'est assez, assez dramatique. Si vous n'avez pas d'argent, votre enfant ira dans une école d'un milieu, donc dans un quartier défavorisé, payé par les taxes, il n'y aura donc pas d'infrastructure, pas de matériel, enfin, en bon état, pas de matériel informatique, etc. etc. Donc oui, même au niveau de l'éducation, cela va augmenter les inégalités.
Une question sur un sujet qui fait polémique aux États-Unis. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons avec nos invités.
Le décret visant à abolir le droit du sol actuellement suspendu a-t-il des chances d'être appliqué?
Ah, le décret qui vise donc à abolir le droit du sol, il est suspendu à une décision d'ailleurs de la Cour suprême, Jérémy Guez.
Oui, et il restera suspendu donc tant que la Cour suprême n'a pas statué.
Mais il y a une audience prévue dans 2 semaines.
Voilà. Alors, il y a beaucoup d'aspects dans cette question. Peut-être commençons par le fait que c'est un décret. Rien que cela, c'est assez contestable parce qu'en fait, ce droit du sol est protégé par la Constitution, le 14e amendement pour être exact, et donc il faudrait un changement constitutionnel pour le remettre en question. Donc, décret, certes, mais ceci dit, un décret, ça serait ce qu'un président futur pourrait être inversé, et même le décret en lui-même, est-ce que ça serait suffisant? Et la plupart des gens disent non. D'autant plus que les juristes à qui j'ai posé la question me disent « Vous lisez le 14e amendement, il est clair et net. » Et encore une fois, je ne vois pas comment on arrive à l'appliquer durablement sans révision constitutionnelle. Mais et là, pour le coup, c'est une autre paire de manches.
On a une Cour suprême qui est majoritairement conservatrice, Romuald Sciorra.
Oui.
Que va-t-elle décider le 15 mai?
Je suis presque certain que la Cour suprême va maintenant s'atteler prochainement au mariage gay, mais quant au 14e amendement, ce dont on vient de parler, les choses sont quand même un peu plus difficiles et la Cour est visiblement très divisée. Mais, même si la Cour rejette la volonté, enfin le souhait de Trump de réformer et de revenir sur cet amendement, cela sera néanmoins, encore une fois, une forme de victoire dans l'image pour Trump. Jeremy a raison quand il parle que c'est un travail lié à son image. Il sera, une fois de plus, la victime de l'establishment. Mm-hmm. Peu importe, son électorat se dira « Oui, voilà un type qui en a et qui a voulu abolir cet amendement qui donne la citoyenneté américaine à tout enfant né d'un parent même illégal. » Donc, ça lui servira dans quoi qu'il se passe.
Ouais, je rappelle qu'effectivement, il s'agit d'abolir ce droit pour les enfants qui sont nés de parents en situation illégale sur le territoire américain. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin que la question de Christophe en parlant de la politique migratoire de Donald Trump. Vous étiez là, Jérémy Guez, je m'en souviens, le lendemain de l'élection aux États-Unis. On en parlait évidemment avec tous les auditeurs. Il avait promis durant sa campagne d'expulser massivement les migrants. Des expulsions sans précédent dans l'histoire des États-Unis, avait-il promis. Dans les faits, qu'en est-il, 3 mois après ?
Il y a une difficulté logistique et une difficulté économique et une difficulté judiciaire. La difficulté logistique, c'est que expulser massivement, ça coûte cher et c'est extrêmement difficile de le faire. La difficulté économique, on en revient à l'inflation, qui est de dire que c'est quand même des gens qui jouent un rôle clé dans le système et l'écosystème économique américain, et donc vous ne pouvez pas vous débarrasser d'eux sans que cela se ressente économiquement, avec des prix qui bondissent, et on parlera peut-être de la guerre commerciale tout à l'heure. Donc ça a un effet boule de neige. Et une difficulté judiciaire, ou un obstacle judiciaire, où très clairement le système judiciaire essaye d'expliquer à l'administration de Trump ce qu'elle a le droit ou pas de faire. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a
Il faut rappeler aux auditeurs que dans certains États, les tribunaux fédéraux s'opposent aux décisions prises par l'administration Trump.
Absolument. Ouais. Et cette administration Trump, dans un certain nombre de cas, a essayé de contourner ce droit. Et donc, ça, c'est des cas qui sont en train d'être jugés, évalués en ce moment même. Mais effectivement, il y a quand même un contre-pouvoir judiciaire parce que cette déportation massive doivent quand même s'inscrire dans un cadre légal.
Romuald de Ciora, 139 000 expulsions ces 3 derniers mois, ce sont les chiffres officiels. Quand on compare à la politique de Biden, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins ?
Si on compare à la politique d'Obama, c'est moins. Hein. N'oublions pas que le grand déportateur, si je puis dire, c'est Barack Obama. Donald Trump ne pourra évidemment pas mettre en place son projet, enfin réaliser son projet. Il parlait de 11 millions, même il était allé à parler de 20 millions, enfin il sera évidemment impossible d'expulser 11 millions de personnes durant ce mandat et ce serait une catastrophe pour l'économie du pays. Non, on est une fois encore dans l'image. Puisqu'il ne peut pas mettre en place ce plan, puisqu'il ne peut pas faire des expulsions, pratiquer des expulsions de masse, eh bien il va nous offrir du show. Mmh. Et l'on voit des scènes indescriptible, si je puis dire, innommable, de personnes enchaînées, marchant le dos baissé, comme des criminels de sang.
Et d'ailleurs, permettez-moi, Romuald de Ciora, de vous interrompre, pour célébrer ses 100 premiers jours, Trump a fait installer sur la pelouse de la Maison-Blanche les photos, les portraits de 100 migrants arrêtés ces derniers mois. Et ils sont qualifiés par la Maison-Blanche comme les pires criminels clandestins arrêtés depuis que le président Trump a pris ses fonctions.
Oui, bien évidemment, on est dans le show, on est dans le symbolique. Donc, il n'arrivera pas à expulser l'entièreté des personnes qu'il souhaiterait expulser, tant est qu'il souhaite véritablement les expulser, car ils ne sont quand même pas fous à la Maison-Blanche, ils savent le problème économique que cela pourrait poser. Donc, on va y aller fort dans la symbolique. Le problème qui va résulter de tout cela, c'est que le racisme va augmenter aux États-Unis. La parole raciste se libère.
On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on reviendra bien évidemment tout de suite après avec Romuald de Ciora, Jérémy Guez, ils répondront à vos questions. La deuxième partie sera plus consacrée à la politique internationale, à la diplomatie, le monde selon Donald Trump. Vous nous appelez bien évidemment. J'en profite, il ne me reste 15 secondes pour saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la chaîne YouTube de RFI. Lucien qui nous écoute à Oum en Côte d'Ivoire, l'ARTS à Angers, donc en France. Ibrahim, il est lui aussi en Côte d'Ivoire dans la ville de Lakota.